Blackcast présent. Mais non.
Les Black Locals présentent une émission féminine. Rien à signaler.
C'est quoi comme genre de film?
Il y a de l'action, de l'aventure et du porno.
Porno? Comme dans pornographique?
Oui, mais là, c'est de l'art.
Oh, je ne fais pas ce genre de film.
Écoute, il y a 2 jours de tournage et je t'offre $5,000.
C'est vrai que c'est une somme énorme, mais ce n'est pas compatible avec mes convictions, merci.
Oh, mon garçon, tu n'as pas compris. Non, il ne s'agit pas d'un vulgaire porno, tu sais. Le script est intelligent, touchant, une histoire poignante qui traite des questions cruciales.
Mais au sujet de gens qui s'accouplent?
C'est un film pour adultes.
C'est interdit de faire ça.
D'accord.
Monsieur, vous êtes très généreux de m'offrir une somme pareille, mais...
10 000.
C'est non. J'ai une fiancée, si elle découvre...
J'ai trouvé. Tu auras une doublure bite. Quand on devra filmer une pénétration, on fera venir un autre pénis. Mais on fait ça tout le temps. Toi, tu joues des scènes où il y a du texte, des bagarres, et ta doublure fait le reste.
Mais il n'empêche que je jouerai dans un film pornographique.
Ah, tu es le meilleur, John.
Je ne sais pas si je vais accepter, Lisa.
Pourquoi? Pourquoi hésites-tu?
Ce film comporte des scènes qui, je suis sûre, déplairaient à Dieu.
Joe, le cinéma actuel est souvent grossier, mais je sais que Dieu connaît notre situation et comprend que tu as besoin d'argent pour fonder ton foyer. Avec $20,000, on pourrait voir venir.
Je sais, mais...
C'est réglé. C'est quoi le titre?
Ça s'appelle...
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
Peut-être. Je m'appelle Joe.
Ben Chapleski. Je joue Shoda Boy.
Qu'est-ce que Shoda Boy?
Je suis ton assistant.
Mon assistant. J'ai un assistant.
Ouais. Quoi? Tu connais pas l'intrigue?
Non, on m'a juste dit que j'étais un super-héros.
C'est vrai. Tu es Orgasmo. Tu combats le crime avec ton Orgasmo rayon. Je suis ton assistant et je te prête main forte à l'aide de mes accessoires sexuels.
Ah.
T'es nouveau dans le métier? Je t'ai jamais vu.
Oh oui, c'est ma première fois. En fait, je suis une personne normale.
Tout le monde est normal ici. Regarde, moi j'ai un doctorat en physique et un autre en mathématiques.
Mais tu es un grand scientifique. Le Seigneur t'a sûrement destiné à une mission plus importante, plus noble.
Qui? Ah. Yeah. Pas les pattes, Spermic Zéro. Tu sais que t'es beau? On va cartonner.
Tu veux te raser les couilles? J'ai de la mousse.
Quoi? Et pourquoi je ferais ça?
Tous les acteurs de porno le font. C'est pour que Popol ait l'air plus grand.
Ok, tout le monde en place! Et voilà, j'explique la scène. Hein? Candy, sa fille et Spermic Zéro s'amusent sur le lit. 2, Orgasmo et Shola Boy traversent le mur. Et 3, ils se battent contre Spermix et ses gros bras. Et 4, vous baisez tous comme des bêtes, d'accord?
Mais...
Ok, cette fois on y va. Lumière!
Ouais!
Du calme.
Ouais, désolé.
Non, tu me fais des gros plans, tu travailles bien léché, hein. Et quant à toi, tu pars d'un gros plan, tu cadres bien ses bites et tu zoomes arrière. Très lentement. Et tu restes sur le lit.
T'es un génie.
Moteur. Et... On suce.
désormais. Le vibro est notre champion. Attention de nettoyer l'embout pour éviter d'avoir des champignons. Au travail, à supermarché ou salle de sport, je l'ai en moi. Il me suit comme un labrador. Même quand j'enregistre cette chanson, remarquez-vous rien qu'au son de ma voix qu'il burine en moi. Vibro ma soeur, vibro, vibro ma soeur, paye ton vibro ma soeur, oh. Vibro ma soeur, oh. Paye ton vibro ma soeur, baby.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, vous êtes sur Radio Dio 89.5 dans l'émission Rien à signaler. Vous pouvez aussi nous écouter sur le web, sur le site de Radio Dio. J'espère que vous êtes revenu sur l'antenne vu que ces derniers jours, elle n'a pas fonctionné. Et donc on vient de s'écouter tout un petit montage autour du porno, puisque c'est le thème de notre émission ce soir. Donc avec des extraits de films de Captain Orgasmo et puis des petits remixes de Gunther Ding Ding Dong et puis une parodie de Britney Spears. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et donc voilà, ce que je disais, on va parler de pornographie ce soir avec Nelly à la technique et Do avec, qui nous a rejoint dans Rien à signaler pour peut-être...
Cette émission-là, en tout cas,
et peut-être pour plus tard aussi, de folles aventures en perspective. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on en connaît, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qui nous intéresse dans le porno? En tout cas, ça nous intéresse. Et on n'a pas de théorie toute ficelée à vous proposer sur ce thème, mais voilà, on a plein de choses à vous dire. Peut-être d'abord simplement dire que c'est une représentation de la sexualité qui nous renvoie directement au corps, à ses normes, à des esthétiques, à ce qu'on peut faire du corps, comment on peut, comment on veut le percevoir. Donc on n'est pas des spécialistes, mais comme chacun, chacune, on peut se sentir concerné par les représentations du porno, parce que c'est des représentations du corps, du sexe, des sexualités, et qui sont proposés dans ces films, qui proposent du coup une excitation ou un support pour se masturber. Voilà. Et alors, de quel porno on parle déjà? On a envie de préciser dès le début. On parle de porno qui ne correspondent pas à l'exploitation des gens.
Voilà, je sais pas si on peut... C'est ça.
Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qui nous intéresse? Que déjà pour nous c'est une rencontre charnelle, une rencontre sensible des corps, et qu'on peut apprécier le porno quand les gens, on voit qu'ils s'amusent, enfin nous c'est comme ça qu'on le conçoit.
Exact.
Quand les gens s'amusent, quand on voit qu'ils ont du plaisir, qu'ils et elles sont consentants, et que pour les meufs aussi, il y a dans les scènes, dans les scénarios, on voit qu'elles ont aussi du contrôle sur leur corps et dans les situations, c'est quelque chose qui est aussi important. Et après, qu'est-ce qui ne nous va pas forcément? C'est d'abord simplement les normes de beauté qui sont super présentes. Du coup, il y a un manque de diversité à ce niveau-là, comme il y a un manque de diversité à des moments sur des scènes, des scénarios, comme je sais pas, l'éjaculation faciale qui est super récurrente. Et puis aussi, par exemple, les textes et les mises en scène sexistes et racistes qu'on peut trouver sur les jaquettes des films, de présentation des vidéos ou dans les extraits sur internet. Et donc comme plein de trucs finalement, et ben faut bien chercher pour trouver un bon film. C'est comme quand on cherche un livre, on va pas forcément se dire qu'on va trouver le pire livre du siècle dans la librairie de la gare, je sais pas, voilà. Et Et qu'aussi, y a plusieurs publics finalement. Enfin, qu'il y a une production diversifiée, en tout cas.
Très diversifiée.
Malgré des trucs de normes.
Majoritaire de masse, ouais.
Voilà. Et aussi, on n'aime pas du coup aussi les mises en scène sexistes et racistes, évidemment. Mais c'est aussi parce que nous, on pense qu'on est dans une société patriarcale et que cette société patriarcale, elle s'exprime aussi dans la sexualité et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne la retrouve pas dans le porno comme n'importe quel endroit. Voilà. Et donc, toi, Do
Par exemple, sur cette normativité du corps, dans le porno, elles apparaissent majoritairement en hyperféminisant les femmes, biologiques évidemment, et hypermasculinisant les hommes bio aussi, dans leur genre en fait. Et par exemple, en 90, Judith Butler, elle publie « Troubles dans le genre », et dans le dernier chapitre de cet opus, la philosophe élabore le concept de « performativité du genre ». Et ce concept, il ressemble à quoi en fait ? Donc, c'est le fait que le corps sexué est l'effet d'un rapport de pouvoir et qu'il est discipliné par un système de domination. Et dans le porno, le corps sexué discipliné par le système de domination, il est rendu visible par la valorisation des marqueurs du sexe à outrance. Alors, les marqueurs du sexe à outrance, c'est évident, c'est les seins siliconés, les lèvres gonflées. Les organes génitaux rendus hyper visibles par l'épilation, par exemple. Et Elsa Dorlin, par exemple, aussi, dans sexe, genre et sexualité, elle nous dit comment le porno peut être sexiste. Et dans les techniques qu'elle repère, comme l'étang, elle montre, par exemple, que le cadrage pornographique, il a tendance à imposer un regard clinique sur les corps, et que ça va avec ce truc de domination masculine. Que l'enregistrement de l'orgasme sexuellement différencié, il est très voyeuriste, avec évidemment la représentation du soi-disant, entre guillemets, vrai orgasme féminin, et la jouissance masculine, qui signifie toujours la fin d'une scène, et de façon redondante, justement, par l'éjaculation faciale. Et par exemple, Pob, elle a un truc intéressant à nous lire, qu'Ovidie écrit à ce sujet.
C'est ça, Ovidie qui a écrit Porno Manifesto, et dont on vous reparlera tout à l'heure. Donc, a écrit dans son bouquin « Porno Manifesto » édité à la Musardine. Donc, elle cite d'abord les chimères, maternité, esclave. Voilà. Dans une civilisation qui ne tolère pas les sécrétions et les excréments, qui les cache, qui les appelle souillures, quand il s'agit des règles, comment se fait-il que le sperme échappe à cette domination ? Donc, elle dit « Il est rare qu'une scène harde ne soit pas menée jusqu'au bout. Elle doit toujours se terminer par l'éjaculation triomphante de l'homme, et si possible sur le visage. Car lorsqu'elle atterrit sur le visage et dans les yeux, on ne peut être qu'assuré qu'elle a bien eu lieu. Cette convention n'est pas uniquement caractéristique du cinéma X européen. Elle est révélatrice d'une norme hétérosexuelle hors porno. Le rapport sexuel s'arrête lorsque l'homme jouit. Si la femme a eu suffisamment de plaisir avant, tant mieux. Sinon, tant pis pour elle. Qu'elle n'attende surtout pas d'aide d'une âme charitable. Le cinéma X est un reflet des mentalités et n'est seulement pas toujours plus évolué qu'elle.
Et donc, à partir de cette analyse, la question n'est évidemment pas de dénoncer la pornographie en tant que telle, mais juste de déplacer les codes et les techniques de la pornographie de masse et d'en produire en fait d'autres usages, quoi.
Voilà, et du coup, après vous avoir raconté plein de trucs trop bien que des gens réfléchissent longtemps et écrivent très bien, on va vous passer une chanson de The Faint que tu vas nous raconter un peu ce qu'il y a dedans.
Oui, qui s'intitule Rock Out So Sexual. Et cette chanson, en fait, parle des sex workers, c'est-à-dire des travailleurs ou travailleuses du sexe. Et elle pose un regard assez lucide sur les services que ces personnes rendent à des personnes qui en font nécessairement la demande, évidemment, elles n'existent pas pour rien. Et ces personnes qui ont de ces services peuvent tenter de s'extraire de la monotonie et du quotidien, de reconquérir la confiance en soi. Et ça permet également de stimuler les fantasmes et l'imaginaire de ces personnes-là. Et donc nous écoutons avec grand plaisir « Work Up So Sexual ».
Thank you. Smaller tits and younger limbs can cause a fit of rivalry, but it is a job that pays a lot. Is it disservicing someone? And is it good to get these men worked up so sad? So sexual.
Été 2005. Je traverse les États-Unis d'ouest en est, de Seattle à New York, en passant par Los Angeles et San Francisco, à la rencontre d'activistes, photographes, artistes, réalisatrices, travailleuses sexuelles et théoriciennes qui ont initié, dans les années 80, un mouvement révolutionnaire. Le féminisme pro-sexe, pro-pute, féminisme porno, SM ou lesbien. Quand on parle de féminisme, on pense souvent au féminisme abolitionniste. Il assimile toute image pornographique à une atteinte à la dignité de la femme et réclame sa censure. Il perçoit toute prostitution comme une marchandisation du corps humain que la loi doit venir sanctionner. Le féminisme pro-sexe élabore une stratégie opposée. Le corps, le plaisir, la représentation pornographique et le travail sexuel sont des outils politiques dont on doit s'emparer. Ici, la parole de celles qui sont directement concernées prime sur la parole des expertes. Annie Sprinkle, Norma Jean, Almodovar, Carol Quinn ou Scarlett Harlott ont toutes écrit sur la prostitution à la première personne. Affranchies de la censure et de la victimisation, elles revendiquent le droit de disposer de leur corps comme elles l'entendent, y compris sur le marché du travail sexuel.
Je vois absolument aucun argument objectif qui permette d'affirmer que le porno est avilissant pour les femmes. J'ai fait mon premier tournage professionnel en décembre. En avril suivant, j'avais ma première couverture de hot vidéo. En fait, 3 mois après, je suis tombée nez à nez avec moi dans la rue et c'est vrai que l'effet est assez saisissant. Alors que être star du X, en réalité, pour moi, ça consistait à aller faire la conne peut-être une ou deux fois par mois sur un plateau. C'est peut-être 10 heures de ma vie par mois, c'était rien du tout, quoi. Le jugement est aussi fort parce qu'ils ne veulent pas reconnaître à quel point la fascination est forte. Et donc, c'est forcément l'objet de leur désir qui est responsable du désir. Et parce qu'il est refoulé, il est mal, enfin je sais pas, parce que les gens sont complètement tordus. Beaucoup plus que moi, je l'étais à l'époque en faisant du porno en tout cas.
Je pense que les gens sont des gros pervers et des gros frustros, quoi, en fait. C'est ça leur problème, quoi. Parce que finalement, les gens qui font du cul, etc. Moi, souvent, ça m'est arrivé de me faire insulter dans la rue par des mecs. Et je lui dis, attends, si ce que tu trouves que moi, ce que moi je fais, c'est crade, c'est que déjà, t'as vu ce que moi je faisais. Donc, c'est que tu t'y intéresses quelque part. Tu vois, t'es curieux vis-à-vis de ça. Donc, tu regardes. Si des gens comme toi regardaient pas, il y aurait pas de filles comme moi.
You got me so hot. You got me all going again. That was fucking great.
La notion d'obscénité est un outil totalitaire pour réduire la femme à finalement un morceau de chair. Qu'est-ce qui fait que dans le sexe, et particulièrement le sexe de la femme, qu'est-ce qui fait que dans l'acte sexuel humain, on met toute cette ignominie? C'est plus que de la laideur, c'est un rejet. Les gens ont envie de vomir, les gens, ou alors, s'ils trouvent ça bien, c'est d'une manière avec de la concupiscence, etc., ou d'une manière salace. Mais finalement, pour trouver ça tout simplement de l'humanité, tout simplement la beauté et la laideur mêlées dans l'homme qui fait qu'il est dans ce fragile équilibre et que finalement il est touchant. Il y a peu de gens qui le reconnaissent. Et qui d'autre peut le montrer que les cinéastes? Ce sont les seuls qui peuvent le montrer, oui, avec le matériel humain, c'est-à-dire avec des vrais sexes. Ben, ça veut dire quoi la pornographie? C'est un regard porté sur l'acte sexuel humain. Ça entraîne avec soi des préjugés. Et toute une éthique, d'ailleurs judéo-chrétienne, qui fait de la nudité, de l'obscénité, un fait anti-dignité humaine, alors qu'il y a une anti-dignité humaine à croire même à ces choses-là. Et c'est simplement la société qui a l'air de dire que la femme a un capital de dignité et qu'on peut en enlever au fur et à mesure qu'elle commet des actes sexuels.
Et voilà, donc là, on vient de s'entendre un extrait du film de Virginie Despentes qui s'appelle Mutante, qui est un documentaire qu'elle a fait sur la scène féministe pro-sexe et les travailleuses du sexe. Et dans l'ordre, on a entendu Virginie Despentes qui présente en fait le début du documentaire. Et ensuite, on a entendu Coralie Trinity, Nina Roberts et Catherine Breya.
Coralie Trinity, qui est une ancienne actrice porno, qui a également écrit La Voix humide, Petit Monde et Oser la sodomie, que je recommande chaudement. Et Nina Roberts, qui est également actrice, toujours en action, qui fait toujours des films, mais qui est également assiseur photographe. Et Catherine Breillat, qui, comme tout le monde le sait, a fait tourner des acteurs porno dans des films de cinéma dits traditionnels, dont Rocco Siffredi et Coralie Trinity, justement.
Voilà, et du coup, ce documentaire Mutante, il est passé qu'une seule fois sur le câble et il n'est pas encore diffusé. On espère qu'il le sera. Et du coup, on a pris un peu les parties, à part Béatrice Preciado, mais c'était un peu une erreur de montage, plutôt, enfin, un problème technique, on va dire. Et on vous en reparlera, on espère, dans une autre émission. Voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion d'avoir des gens qui l'ont enregistré sur le câble, n'hésitez pas, parce que ça parle beaucoup de la scène américaine et espagnole aussi. C'est super intéressant. Dans le même état d'esprit, justement, que cette démarche féministe pro-sexe, on voulait vous reparler d'Ovidie, en fait, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit Porno Manifesto aux éditions La Musardine, un livre qui se lit assez bien, je trouve, qui est accessible. C'est une actrice et une réalisatrice porno. Elle a fait plutôt Sexualité, mode d'emploi, volume 1 et 2, Le point G, Le point Q, et elle se définit plutôt comme une travailleuse du sexe fière et critique. Critique d'une position antisexiste qui associe le porno et aux femmes objets et esclaves. Et elle parle donc d'abord dans son bouquin pas mal de la difficulté à exister socialement en tant qu'actrice, la condamnation qu'il y a des actrices porno et la non-reconnaissance de leur capacité à à faire le choix d'être actrice et à pas être exploitée là-dedans et avoir des conditions de travail correctes et compagnie. Voilà. Et tout ce que ça engendre, du coup, le fait que les actrices, elles sont vachement exposées potentiellement aussi à des agressions ou voilà, moins reconnues comme des vraies stars, des actrices, tout ça. Du coup, voilà, elle nous dit... Alors, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous raconter de ce livre parce qu'il est, il est vraiment très intéressant. Mais peut-être on va aller directement au truc qu'elle nous dit sur le rapport anal qui se fait uniquement pour les femmes, en fait, souvent. C'est-à-dire que les pornos qui mettent en scène des hommes et des femmes qui font du sexe ensemble, qu'on pourrait dire hétérosexuels, majoritairement, les femmes, elles se font beaucoup pénétrer et les hommes pas trop. Et on peut voir qu'il y a vachement de sexe anal, en fait, mais du coup, ça qui est hyper banalisé, du coup, finalement, donc c'est une forme d'évolution. Mais on a vachement envie d'interroger cette évolution-là, vu qu'elle concerne principalement les femmes. Et Ovidie, elle nous en parle, voilà, aussi. Et,
Surtout que ce sexe anal en question, donc il est présent aussi dans une pornographie plus spécifique. Mais le rapport anal pour l'homme par la femme, il n'existe que dans la catégorie niqueuse d'homme. Donc c'est une catégorie spécifique et donc ça ne représente pas la pornographie de masse. Et justement dans Oser la sodomie, Coralie Trinity vante les vertus de la sodomie également pour les hommes qui doivent également explorer cette partie de leur corps.
Voilà, alors sinon elle nous parle aussi vachement des critiques. Enfin, en fait elle répond aux critiques de la pornographie comme quelque chose qui génère de la violence, des crimes sexuels, plein de choses en fait, qui sont assez courants.
En tout cas, dans les débats anti-porno, quoi.
Voilà, ou un discours sur la pornographie aussi qui fait qu'il y a vachement de questions, et c'est intéressant de questionner la pornographie. Exact. Nous, on n'est pas du tout sur un truc de dire qu'il n'y a pas de problème et que tout est génial, mais on ne la condamne pas. Au contraire, on a envie de la soutenir dans une direction qui nous intéresserait plus. Exact. Et donc, elle va nous parler de comment la pornographie est censée être responsable du viol et des autres crimes. Et elle dit « La pornographie est loin d'être la source première d'incitation aux crimes sexuels. Il suffit de lire l'histoire du viol du XVIe au XXe siècle pour se rendre compte que le viol n'a pas attendu les films de Marc Dorcel pour être fréquemment commis. Stratégie de possession en temps de guerre, aux simples marques de domination entre individus, il s'est pratiqué de tout temps et ses motivations premières demeurent également les mêmes. Il est l'expression sexuelle du désir de soumettre l'autre. Ce désir se trouve au fondement de la société dans laquelle nous vivons et n'a pas attendu qu'une bande de joyeux lurons se filme en train de faire l'amour pour exister. Il n'est pas isolé, mais intégré dans le cadre d'une violence globale. On ne viole pas dans un cadre égalitaire et non violent. L'excitation sexuelle provoquée par du matériel érotique ou pornographique n'est pas suffisante pour commettre un tel acte. Une personne évoluant dans un cadre relationnel épanouissant, qui se masturbe tranquillement devant un film pornographique, ne se transforme pas subitement en agresseur sexuel. Voilà. Donc, ensuite, Ovidie, dans son livre Porno Manifesto, elle nous parle de pas mal de, justement, comme Virginie Despentes le fait, des démarches pro-sexe et des femmes en fait, qui l'ont vachement investi et défendu, et notamment beaucoup des travailleuses du sexe elles-mêmes, en fait, c'est ce qu'elle dit un petit peu dans le documentaire qu'on a entendu. Donc on va vous les citer comme ça, vite fait, histoire de voilà, vous proposer d'aller fouiller.
D'aller fouiller, de rechercher.
Parce que c'est aussi des femmes du coup, qui ont produit plein de choses. Donc il y a Annie Springle, qui est voilà, une grosse référence, on va dire, qui a d'abord fait Deep Inside, qui est un de ses premiers, premières grandes réussites en 82. Betty Donson, qu'elle cite comme la reine de la masturbation. Candida Royal, qui a créé en fait, sa boîte de production en 84. Mais ses films ne sont pas traduits, par contre. Dory Lane, qui est pour une connaissance et un amour de soi, de son sexe et du corps. Elle crée des supports qui s'appellent la vulvapette, qui est aussi un truc de réconciliation, on va dire, avec son sexe aussi. Quand on a vécu des trucs trash, elle a réfléchi à ça, c'est super intéressant. Et donc, elle fait aussi les cours d'éducation sexuelle sur Internet, qu'elle a créé, la Vulva Université. Après, il y a Scarlett Harold, Veronica Vera, qui sont des actrices, qui ont investi pas mal des luttes et des associations de travailleuses du sexe, sex workers en anglais, et pas mal aussi la lutte contre le sida. Hein, c'est un truc qu'on va pas trop aborder aujourd'hui, mais ça fait partie des questions qui traversent
relève de la sexualité de toute façon.
Voilà, qui relève et de la sexualité et qui traverse le porno.
Forcément.
Il y a Wendy McElroy, et après, dans une autre catégorie, on a Pussy Power, qui est une boîte de production de Lars von Trier. Je l'ai bien dit.
Oui.
Donc, Constante en 1998, Pink Prison en 1999, Hot Man Cool Boys en 2000, qui sont en fait des films qui ont pour objectif de réconcilier les femmes avec la pornographie. On les a pas vus. Mais en tout cas, c'est ça qui est proposé. Et Lars von Trier, donc c'est un réalisateur assez connu, qui propose en fait de mettre à disposition, enfin de donner les conditions de réalisation et de production similaires à du cinéma traditionnel, donc des moyens, les budgets, tout ça, quoi.
Et oui.
Voilà. Et sinon, pour finir sur Ovidie, elle a aussi écrit Lilith, réalisé Lilith. C'est son premier film. Elle le défend, pardon. Je m'embrouille. Elle défend son film comme un film féministe pro-sexe, où elle encourage les femmes à déculpabiliser de leur sexualité, entre autres. Et puis, elle dénonce aussi pas mal dans son livre l'hypocrisie du porno chic, qui serait le porno version soft ou pas de la sphère, plutôt du spectacle officiel, de la pub, tout ça, qui dévalorise vachement l'industrie du sexe.
Exact.
Voilà pour Ovidie. Et il y en a d'autres qui écrivent. C'est aussi un des trucs qui est accessible en fait sur l'écrit du porno, c'est-à-dire qu'il y a aussi plus récemment des productions de gens qui parlent de leur expérience, de qu'est-ce qu'ils y ont vécu, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a des trucs théoriques, mais il y en a pas tant que ça. Et en même temps, il y a aussi toute une production depuis des années qui remet en cause l'industrie du sexe, avec un discours abolitionniste qui rejoint celui dont on vous a parlé dans une autre émission sur la prostitution. Nous, on n'a pas envie de faire la comparaison entre prostitution et pornographie. Donc, on n'en parlera pas plus parce qu'on n'a pas le temps et que ça ne nous intéresse pas là aujourd'hui. Et si tu as envie de rajouter un truc, Do ?
Non, pas spécialement.
Non. Eh bien, comme on est très short comme d'habitude, on a 25 000 trucs à écouter et à dire. On va enchaîner avec un interview de Cizia, qui est un ami
poète.
Et quelqu'un qui a bien voulu répondre à nos questions en tant que
spectateur
de porno. Et voilà, qu'est-ce qu'il y trouve, qu'est-ce que ça lui fait, pourquoi, parce que c'est quelqu'un du coup qui a investi le porno dans son quotidien, on va dire, enfin, je sais pas comment dire autrement.
Ben oui, qui a réussi à y trouver quelque chose qui lui convient, tout simplement, puis il va nous l'expliquer lui-même, ce sera bien mieux.
C'est ça. Donc, Cizia, on est avec toi pour discuter de pornographie. Et pour commencer, peut-être simplement, qu'est-ce que tu regardes et comment tu considères le matériel pornographique ?
Bonjour tout le monde. Alors, ma consommation de porno, elle est assez ciblée finalement, quoi. Donc, je l'utilise en matériel, on va dire, de privé, dans un cadre soit de masturbation, soit en solo, soit d'utilisation en couple. Je m'oriente plutôt vers des pornos gays et quelquefois des pornos hétéros. Avec un souhait, peut-être un souhait d'élargir à du porno bisexuel, mais c'est une catégorie qui est très peu représentée. Il y a peu de matériel et il n'est pas forcément de qualité satisfaisante, on va dire.
Quand tu dis matériel, mais du coup, c'est des films.
Des films, oui. Je connais pas du tout le reste, en fait. Enfin, je connais très peu les revues ou éventuellement, je ne sais pas, peut-être la littérature, mais ça reste assez marginal pour moi. Voilà. Donc mon choix, il se cible plutôt sur des pornos qu'on va qualifier de très professionnels, où on va sentir que les gens qui travaillent dedans sont justement très consciencieux dans leur travail, on va dire. Mmh. Donc ils font et qui ont l'air d'apprécier leur travail, qu'ils font voir. Mmh. Ça reste un élément primordial que ce qu'on montre en fait, ce soit une image du plaisir, une représentation du plaisir, du jeu. avec une...
Qu'est-ce que toi, ça t'apporte, du coup ? Enfin, qu'est-ce que tu trouves dans les films pornographiques ?
Ce que j'y trouve, j'attache une importance, une grande importance au visuel, en fait, dans tout ce qui concerne la représentation sexuelle.
Une esthétique, quoi.
Une esthétique. Et aussi, il y a le visuel et le sonore, en fait. Et l'expression du plaisir... comment est-ce qu'il y a vocal, en fait, l'expression vocale du plaisir, ça permet susceptible d'éveiller justement le désir chez l'autre. Moi, ça fait partie du central, tu vois, là-dedans. Voilà, je joue sur l'esthétique de la sexualité et sa vocalisation, en fait, son passage par l'oral, quoi. Ça fait partie des trucs qui motivent ma libido.
Et qu'est-ce que tu y vois dans... du coup, tu as parlé de l'oral, que c'était un truc important qui était représenté, qui t'apportait un truc. Et du coup, il y a toute la perception du coup, de l'image, parce que le cinéma, c'est ça, quoi, c'est de l'image aussi.
La perception de l'image... J'aurais deux thèmes là-dedans. Il y a d'un côté le fait de véhiculer des images du corps vachement stéréotypées, normées, qui peuvent être analysées en termes de... En gros, le corps doit se conformer à ce modèle et qui peuvent être vus comme des moyens d'imposer encore la contrainte du corps. À l'opposé, il y a aussi la recherche esthétique, en fait, qui en tant que telle, pour moi, n'est pas. Elle n'est pas ni bonne ni mauvaise, mais pour moi, fait partie de la construction de la sexualité. Même si imposer un modèle de beauté est bien sûr contestable, une recherche en tant que telle de beauté ne l'est pas pour moi, en fait. Et forcément, les vidéos pornographiques donnent une vision très très étriquée, justement, de cette idée de beauté, sûrement, quoi. Mais. Je trouve tout de même mon compte dans certains supports, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. Après, c'est aussi pour ça que ça convient sûrement pas à tout le monde. Parce que les modèles présentés sont on reste dans pour les meufs des grosses poitrines, des formes voluptueuses, machin, du silicone, beaucoup de maquillage. Pour les mecs, des muscles visibles, une grosse bite. Pour les mecs, c'est assez carré, assez simple. Sauf dans la pornographie gay, où t'as aussi généralement des jeunes et faibles avec un physique ado, pré-ado, qui, même s'ils sont, adultes généralement, quoi, ont l'air d'être un peu plus jeunes généralement. Donc,
plus féminin aussi. Non, pas forcément.
L'image du féminin est... Comment est-ce qu'on va dire ? Dans l'imagerie porno gay, le féminin est assez rejeté, on va dire, d'une certaine façon. Enfin, mis à part. C'est un peu comme dans le milieu gay mainstream où le personnage de la folle, on va dire, qui fait partie de la culture gay, est mis à part, voire rejeté... à l'intérieur même du milieu, parce que elle desservirait en gros une volonté d'intégration au monde straight, quoi. Là, la féminité, en gros, elle serait plutôt considérée comme antisexuelle, en fait, quoi. Ce qui est pas du tout mon avis, en fait, mais du coup, même les personnages qui sont plus souvent bottom, on va dire, en situation, quoi, dans les films gays, sont pas représentés comme féminins, quoi, du tout, quoi. Mais... comme soit viril en devenir, soit l'élève du pédéraste, pour moi, dans ma tête. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà, mais tu vois, ça montre deux catégories séparées, alors enfin, pas si souvent mélangées, d'ailleurs, les deux styles, je trouve. Mais ces deux, tu vois, et ces deux catégories, quand même, elles montrent deux versions de l'image du mal, quoi, en quelque sorte. Mais sans intégrer de notion de féminité, vraiment, quoi. Des films qui intègrent des personnages, on va dire, transidentitaires, bon, ils sont encore plus marginaux. Voilà, ça fait pas partie des fantasmes sexuels très représentés, quoi.
Sur Radio Dieu 89.5 dans l'émission Rien à signaler. Donc ce soir, on vous parle de pornographie et là, on est avec Cizia qu'on a interviewée et qui nous parle de pornographie comme en tant qu'amateur et spectateur de la pornographie.
En fait, cette discussion, ça me fait voir. En fait, la plupart des vidéos pornographiques, pour moi, avec ma réflexion sur la sexualité et ma façon d'envisager mes pratiques, pour moi, elles représentent justement des situations de domination, soumission. Pour moi, de façon très explicite, c'est pas du tout le message qui accompagne ces vidéos. Je pense qu'il faut aller dans des catégories, dans des spécialisations particulières, bon, par exemple des vidéos SM, où ce sera clairement écrit qu'il s'agit d'une situation... une situation, on va dire, avec des rôles très clairs. Alors que dans la majorité des pornos, les rôles ne sont pas nommés, quoi. Ils sont sous-entendus comme étant peut-être normaux d'une certaine façon, quoi. Donc dans la majorité de la pornographie hétérosexuelle, on va dire, facile d'accès. Comme les grosses productions françaises, par exemple, quoi. Les rôles sont clairement définis, mais et rattachés au genre, d'ailleurs. Et c'est pas du tout qualifié comme des situations, justement, des situations de jeu qui nécessiteraient, une compréhension du jeu, une implication, une réflexion assez poussée. Et ils sont montrés comme naturels, voilà, justement, enfin, naturels, spontanés en tout cas, et...
J'ai l'impression qu'il y a deux trucs dans ce que tu dis. Il y a le fait d'avoir identifié le fait qu'il y a des rôles ou qu'il y a des jeux, et après il y a comment tu les explores, quoi. Voilà. Parce que, enfin, ça c'est des trucs dont on a déjà parlé, mais du coup tu me parlais de aussi ce qui est visible dans le porno, qui est souvent pas dit parce qu'il n'y a pas de présentation forcément des pratiques des gens, mais c'est que les gens, ils ont une exploration de leur corps et du rapport au sexe qui n'est pas forcément improvisé, quoi, qui n'est pas novice, en fait. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que ça peut être intéressant, c'est que les gens, ils vont dépasser des trucs ou je sais pas quoi, se permettre des choses dans les films. Enfin, qu'on ne fait pas forcément 4 secondes, quoi. Enfin, et en même temps, pour moi, c'est limite ce côté-là, le fait que ce ne soit pas montré, quoi. Mm-hmm. Enfin, que direct, hop, ça glisse et tout va bien.
Ouais, ça peut être une critique qui est faite justement sur ces formes de pornographie qui ont montré des pratiques construites, des pratiques qui nécessitent de se connaître soi-même, de bien connaître son corps, de verbaliser les situations avec les partenaires, ce qui n'est pas du tout mis en avant, quoi, qui ne sont pas à prendre forcément à la légère dans la vie courante. Alors que là, elles sont montrées de façon, enfin, comme si elles étaient spontanées. Youpi, tralala, on y va, c'est bon, quoi. C'est comme si c'était facile, en fait. Alors que ça n'a rien de vraiment facile, surtout avec tous les carcans qu'on a concernant la sexualité, quoi. De créer un rapport où on va donner, par exemple, tout le pouvoir à l'autre, comme dans un modèle de soumission. En parler juste comme ça, pour moi, ça me dit tout de suite, oula, c'est évident, je ne peux pas faire ça avec quelqu'un comme ça, d'un coup. À blanc, voilà, et du coup on peut facilement se questionner sur ça, quoi. tous ces supports pornographiques montrent une image de facilité. Et pour moi, ce serait vraiment, vraiment intéressant de les présenter avec, on va dire, un accompagnement, quoi, quelque chose qui permette de comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça. Ça orienterait d'ailleurs la chose sur quelque chose de plus éducatif, en fait. Quoi, mais...
Sur Radio Dio, dans Rien à signaler, on est en train de s'écouter le témoignage des extraits de l'interview et du témoignage de Cizia, amateur et spectateur de pornographie.
Et est-ce que ce que tu dis là, que finalement, dans ce que tu cherches, ou dans ce que tu conçois du pouvoir ou de la sexualité, il y a peu de films qui représentent ça et qui t'excitent, est-ce que c'est... supposition, est-ce que c'est pas quelque chose qui a évolué parce que c'est quelque chose que t'as défini ou que t'as pris conscience, mais qu'au départ cette représentation du sexe en général, parce qu'elle peut être puissante et excitante et tout, elle était déjà là en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que toi tu vas de plus en plus définir de ce qui te convient, de ce qui te plaît, de tu veux pas avoir de la gêne, des choses comme ça, et que du coup ben tu vas chercher un truc précis. Mais au départ, est-ce que la représentation du sexe et de la sexualité, enfin des sexualités, c'est déjà quelque chose en soi vers lequel tu as eu un intérêt et un...
Oui, bon, bien évidemment. Non, je me suis tourné vers... Enfin, j'ai commencé à consommer du porno très jeune et je pense que j'en consomme de plus en plus, tu vois. Faut mettre en parallèle d'un côté on va dire l'évolution de... ma propre sexualité l'information que j'ai eue dessus, mes expériences qui font que je sais plus ce que je veux et de l'autre côté aussi ma recherche justement de différents films. En gros, j'ai eu de plus en plus accès à un grand nombre de films en fait. Les films vers lesquels je me tourne, c'est pas forcément... maintenant, je n'y avais pas accès forcément avant. Peut-être qu'il m'aurait gêné d'ailleurs avant, parce que j'aurais pas été assez... j'aurais pas débloqué certaines barrières en moi qui font que par exemple, se soumettre à quelqu'un, qui aurait impliqué justement une gêne face à un matériel qui montre de la soumission, quoi.
Enfin,
c'est pas facile à expliquer.
Au final, ce qui répulse, ça va pas empêcher de dire bah tiens, là-dedans, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse, et du coup, je vais chercher un truc.
Ah, bah oui, c'est clair.
Ce que je veux dire. Alors que la critique, elle est vachement portée sur le fait que bah non, il y a une production de la domination, donc on peut pas en faire quelque chose, et forcément. La représentation de la sexualité, elle est coincée là-dedans.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Elle est enfermée dans ce prisme de domination-soumission et il n'y a personne qui produit un truc valable, en fait.
Ouais.
Tu vois? Et du coup...
Il n'y a pas la question.
Et donc, il n'y a pas d'intérêt à porter à ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, ta démarche inverse, c'est d'avoir visionné plein de trucs, de t'y intéresser... Et à quel point on peut dire ça m'excite ou ça m'excite pas, tu vois. Et c'est plutôt la recherche de ce qui est en adéquation pour moi avec, avec notre éthique, avec nos désirs, avec nos fantasmes, avec nos limites, avec, et aussi avec nos critiques aussi, parce que c'est des choix en fait, c'est des choix de dire non, ce mode-là, je l'aime pas, j'en veux pas en fait.
Évidemment. Moi de toute façon, c'est complexe, je suis dans une démarche pro-porno, ouais. de toute évidence. J'entends les différents messages qui montrent du doigt justement, qui critiquent de cette façon-là, qui critiquent les modèles représentés et leur grand manque de diversité, évidemment. Après, je dans, vu mon optique, je suis à fond pour une réappropriation justement individuelle de ce genre de représentation. Après, il ne faut pas oublier que, enfin, évidemment, ça produit de la gêne. Et la gêne, c'est aussi une composante de l'excitation dans pas mal de... Enfin, on peut la considérer tout à fait comme ça, quoi.
Voilà, donc c'est la fin de ce témoignage de Cizia, qu'on remercie d'avoir bien voulu répondre à nos petites questions. Du coup, on avait envie de réagir vite fait, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur ce qu'il nous raconte un peu là-dedans. Moi, ce que j'ai envie de commencer par dire, c'est que ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il parle de la réappropriation qu'il a du porno. Et lui, il utilise plutôt, enfin, il le perçoit plutôt d'une manière, il en parle comme ça, de domination-soumission. C'est des codes, des catégories qui lui parlent et qui va investir différemment et s'approprier. Et moi, ce que je voyais comme autre catégorie qui est super importante et présente dans la sexualité en général et le porno, c'est la séparation et la division, enfin l'opposition plutôt qu'il y a entre passif et actif, et que c'est super réducteur, j'ai l'impression, et que plutôt que de voir par exemple des gens passifs, moi j'ai souvent l'impression que c'est plutôt des gens qui participent aussi d'une autre manière et que du coup on a souvent tendance à attribuer la passivité aux gens qui sont pénétrés par exemple
et donc que, aux femmes la plupart du temps
et aux femmes et voilà, si vous regardez des pornos où il y a des femmes qui sont hyper pénétrées par exemple par plein d'orifices, elles sont pas du tout passives par exemple, c'est un bon exemple, et sans aller forcément dans ces situations là ça marche pas non plus de penser ça. Enfin, nous, en tout cas, on le vit pas et on le considère pas comme
que ces femmes soient passives. Non, c'est évident.
Voilà.
Et aussi, juste pour revenir vite fait sur le terme bottom que Cizia utilise. Alors, c'est un terme propre à la sexualité SM, donc sadomasochiste. Le bottom, c'est justement le soumis au maître, et le top, ben, ce serait le maître. Voilà, celui qui gère en théorie le jeu. Voilà. Et donc, dans cette réappropriation. L'usage du terme récurrent par Cizia de domination ou de soumission, c'est vraiment une réappropriation qui calque sur cette sexualité-là.
Ouais, tu dis que c'est récurrent, mais on ne l'a pas entendu vraiment, en fait, finalement. Nous, on connaît son témoignage en entier, mais on ne s'en a c'est pas trop vrai. Mis là-dessus. Et sinon, un autre truc qu'on avait envie de vous parler aussi sur cette histoire de porno, là, c'est qu'il évoque à un moment le fait que, ben, effectivement, le porno, est-ce que c'est vraiment un matériel éducatif ? Et c'est ce que dit Ovidie ou même Coralie Trinity, enfin, plein de gens, en fait, que non, ça l'est pas. Et nous, on pense aussi que ça a vraiment une grosse limite. C'est plus une représentation des fantasmes. Et qu'il y a une grosse question qui traverse la société quand on parle de porno, c'est de dire, c'est une initiation, une forme d'éducation pour les jeunes ados.
Est-ce que ça les influence dans leur sexualité ou la découverte qu'ils feront de cette sexualité-là ?
Et nous, ce qu'on a envie d'en dire, c'est simplement qu'on a un problème collectif de dire que si c'est ça la réponse, alors que c'est pas quelque chose qui est pensé comme éducatif, on a un problème de que nous, en tant que société, en tant qu'intermédiaire, institution, plein de choses, collectif, on produit pas une autre forme d'éducation
sexuelle.
Et que c'est pas parce que le porno existe qu'on doit lui reprocher de pas être éducatif finalement, quoi.
Alors qu'on propose aucune autre forme d'éducation sexuelle.
Et justement, Do, tu vas nous faire une petite présentation du groupe Goddess NG, qui peut être plutôt là une invitation à une initiation finalement.
Mais même elle vous donne des leçons, elle vous explique comment faire un super cuni. Alors, c'est tout simplement, elle montre qu'il est nécessaire d'apprendre comment fonctionne la vulve de sa partenaire. Et le refrain propose de lécher, toucher et embrasser, évidemment, de bonne manière et pas n'importe comment, la personne. Et pour cela, et pour que ce soit efficace, il faut être évidemment attentif aux réactions de sa partenaire. Et c'est ce qui va se guider, la gestuelle et de la langue et de la main. Et du coup, on vous laisse... être attentif à ce message. Better, I can love you better. Good evening, class. I would like to welcome you to Pussy Eating 101. Pay close attention now. There's rules and regulations to pleasing a girl. Going downtown can really rock a world, but you gotta
know what you're doing. There's a math down there that you gotta start learning. First, you gotta make sure you rehearse. Move around your tongue like you're trying to curse. Cause there's nothing worse than a tongue that doesn't work. Then your girl will be mad and you feel like a jerk. Spread out the lips before you kiss. You wanna make sure that you find a clit. Think a little bit, then move it all around. Lick it all over till you hear it make a sound. Then you know that you find a good spot. Tease it and touch it, but not a lot. With your mouth on top, you're in control. You can make it happen fast or slow. Lick it, better lick it right. Touch it, better touch it right. Kiss it, better kiss it right. Do that pussy right. Lick it, better lick it right. Touch it, better touch it right. Kiss it, better kiss it right. Do that pussy right. Don't be bland, better act creative. Be on top of your game to be innovative. Experiment a bit and change it up. Lick a little lower, then put it in a butt. Then you can place a finger inside. Make sure that it's wet and easy to glide. If she's really wet, then your finger slides. Try to put another one inside. But you better still have your mouth on the clit. You know you're doing good if her legs twitch. Then pick her up and set her on your face. Pick a large area to give us some space. She needs some room to place your mouth where she want it. Let her ride her face like she's about to come on it. The key to a girl's heart is going down south. So come on everybody, let her put it in your mouth. Lick it, better lick it right. Touch it, better touch it right. Kiss it, better kiss it right. Do that pussy right. Lick it, better lick it right. Touch it right. Kiss it, better kiss it right. Do that pussy right. Let your mouth do the talking and your tongue do the walking. Work on your cardio, there is no stopping. Get through the pain if your jaw locks. You gotta be a soldier and don't stop. Lick her and finger her at the same time. Feel around the G-spot, seeking you so fine. Rub on that spot, lick on top. You gotta be coordinated, show what you got. Once you got that down, put your other hand around. I have to be blunt and not profound. Put your wet pinky finger in the asshole. You're in three different places, it's time to go. Your pinky in the ass and your other in a hole.
Voilà, on écoute un peu la chanson de Goddess and She, L'Équipe, que Do nous a parlé juste avant. Pour avoir le temps de vous faire une mini bibliographie, bon, on ne va pas toute la faire, mais en tout cas, moi, j'avais envie de vous parler de Marcela Yacoub, qui est une juriste chercheuse féministe super intéressante, que vous pouvez écouter sur Internet, parce qu'il y a des émissions... où elle est intervenue, donc il y en a une sur Radio France, France Info, et puis aussi un plateau télé, et il suffit de taper dans Google Marcela Yacoub pornographie, et puis dans la même lignée de ce qu'elle raconte, parce que du coup elle part vachement de l'analyse de la société par le juridique, et du coup l'encadrement de la sexualité aussi par les lois. Il y a Sans sur moi, qui est un petit bouquin aux éditions L'Esprit Frappeur de Christophe Bière, B-I-E-R, qui fait l'histoire du classement X en France. Et ça aussi, c'est assez intéressant voilà, comme vision de l'encadrement de la pornographie. Et puis, simplement, on avait envie de... Du coup, on a appris, et on va y être ce soir d'ailleurs, que le Méliès faisait une projection d'un truc qui s'appelle Dirty Diaries. Donc c'est 12 réels, donc je vais vous lire un petit peu l'encadré. Donc c'est ce soir à 11h au Méliès. C'est 12 réalisatrices, 12 propositions pour repenser la pornographie. Donc je vous lis vite fait le petit encadré. Nous n'avons pas pour habitude au Méliès de présenter des films porno. Ces Dirty Diaries, donc c'est des courts-métrages, ne dérogeront qu'à peine à la règle puisqu'il s'agit d'un regroupement de 12 courts-métrages artistiques et féministes visant à remettre en cause... en avant, le contrôle des femmes sur leur la sexualité. Si le film est un peu olé olé et complètement osé osé, il n'est pas classé X et donc, bien que réservé à un public majeur et averti, reste un film libre et libertin, engageant et engagé, culotté mais déculotté. Si bien que qu'il ne nous apparaisse pas inintéressant de vous le proposer avec modération pour susciter le débat. Dirty Diaries est donc né d'une initiative suédoise qui consiste à redonner une égalité aux femmes, mais d'un point de vue sexuel. Trop souvent, on entend que le porno ne fait que contribuer au rabaissement de la condition féminine, et si c'était simplement faux, les réalisatrices qui portent le projet assument d'être comme des hommes, des êtres humains poussés par des désirs charnels et complètement lubriques. Et si justement c'était une sacrée bonne forme de constat d'égalité entre les sexes, une sorte de désir ergo somme, en somme. Et voilà, à découvrir en fin de soirée pour les plus curieux. Donc je redis au Méliès ce soir, Dirty Dairies à 11h. Donc voilà, nous n'avons pas besoin d'avoir plein d'argent et plein de temps pour aller à Paris voir les festivals annuels de porno, queer, féministe, alterno, je sais pas quoi. Donc ça aussi, vous pouvez trouver ce genre d'infos qui se passe en France sur Internet et si vous êtes à Paris des fois. Voilà, et puis on voulait remercier aussi Eliska Cross.
Exact, Eliska Cross qui a aimablement... qui a été super accessible et qui a accepté
qui est
de
une
répondre
actrice porno,
oui peut-être. Bien sûr actrice porno qui a accepté de répondre à nos questions super chaleureusement, qui a été hyper accessible, encore je redis parce que c'est rare, et cette personne là en fait, donc malgré toute la bienveillance qu'on y a mis, on n'a pas réussi à réutiliser le son de l'interview. C'était un peu compliqué.
On a fait une interview par téléphone, en fait, voilà. Vu qu'elle habite à Paris.
Voilà.
Et voilà, on n'a pas
trop
pu
utilisable.
Diffuser.
Mais du coup, on voulait quand même la remercier.
Et on n'a pas eu le temps non plus de reprendre et de rediscuter d'énormément de choses, et notamment ce qu'elle nous a raconté. Mais une prochaine fois.
On fera avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voir un peu qui c'est et ce qu'elle fait, elle a un blog très intéressant où elle présente... évidemment, à l'appui de photos, ses tournages, comment ça se passe, c'est quoi ses pratiques, comment elle le fait, et qu'est-ce qu'elle en vit, qu'est-ce qu'elle en dit. Donc n'hésitez pas, Eliska Cross.
Voilà, et puis du coup, on vous souhaite un bon été. Nous, on va aussi pas forcément être à la radio cet été. On va laisser la place à l'émission Boogie. Et puis, pour finir, on va écouter Sté Strauss avec le titre « Toutes ces femmes-là ». À bientôt.
Qu'est-ce que toutes ces femmes? Quelque chose va mal. J'aurais souhaité une taille de plus à mon bustier. Au lieu de 85, faire 95. Ma bouche l'aurait bien un petit peu gonflée. Histoire d'être toujours prête à donner un baiser. Mes fesses mériteraient d'être rehaussées. J'ai mis de côté de la maille pour me faire liposuccer. Mon nez, ça y est, je l'ai déjà fait. Ce qui me reste, ce sont mes pommettes, mais ça c'est pour après. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Je crois que quelque chose va mal. Les Barbies sont de nouveau à la mode, voix. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voix. Je vais entamer un low régime, histoire de retrouver la ligne. D'après ce que dit ce magazine, à plus de 55 kilos, je peux pas me permettre la piscine. La mode est aux tailles fines, aux fesses plates dans les jeans. Alors même si c'est dégueulasse, et parfois ça donne la chiasse, je mangerai cette merde en sachet. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Je crois que quelque chose va mal, les Barbies sont de nouveau à la mode, voix. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps? Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voix.
Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Ignore-les, oublie-les, laisse-les dans leur schéma. Danse ta danse, sois sûr que personne n'y résistera. Une fille est une fille et toutes les armes tu les as.
Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein?
Je crois que quelque chose va mal. Les Barbies sont de nouveau à la mode, voix.
Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein?
Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voix. C'est pour toutes celles qui s'assument comme Beyoncé, Angie Stone, Jill Scott et Mary J. Celles qui ont un booty que certains disaient. Toutes ces femmes sont elles-mêmes et ne souhaitent rien changer. C'est pour toutes celles qui s'assument comme Beyoncé, Angie Stone, Jill Scott et Mary J. Celles qui ont un booty que certains disaient. Toutes ces femmes sont elles-mêmes et ne souhaitent rien changer.
Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein?
Tu le sais, girls.